Matière à penser, Serge Tisseron.
Matière à penser, des machines et des hommes. Et aujourd'hui, pour mieux comprendre comment les objets que nous fabriquons modifient la relation que nous avons avec nous-mêmes et avec les autres, je reçois Justine Cassel.
Bonsoir Serge Tisseron.
Alors merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous avez une formation de linguiste, vous avez étudié les aspects verbaux et non-verbaux de la communication humaine, et puis vous avez eu l'idée d'utiliser ces connaissances pour fabriquer des machines parlantes, hein, ce qu'on appelle maintenant des robots conversationnels. Donc nous allons aborder avec vous toutes ces choses-là, mais d'abord j'aimerais que nous parlions d'un autre aspect de vos travaux que nous n'avons jamais abordé encore dans cette émission, les femmes et les technologies. Je crois que vous avez consacré une partie de votre carrière à cette question.
Tout à fait. En fait, c'est une question qui se pose beaucoup maintenant parce qu'on remarque que de plus en plus les start-up, les nouvelles boîtes de technologie sont gérées par les hommes et la plupart des employés sont des hommes. Et en fait, c'est un petit peu un revers, on revient en arrière à un temps où la technologie était considérée comme un jouet pour garçons, un rôle pour les hommes. Et c'est inquiétant car nous savons que la créativité et l'innovation vient directement de la diversité des gens qui innovent.
Alors justement, Justine Cassel, vous avez contribué à, vous avez conçu même une sorte de compte hein, pour aider à attirer les filles vers les nouvelles technologies. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce subterfuge que vous avez imaginé, qui s'appelle, je crois, Ringa, la cyberstory.
Voilà, c'est déjà il y a très longtemps. C'est un logiciel qu'avec mes étudiants, on a créé en 95 pour attirer tous les enfants vers la technologie, pour leur démontrer de quoi est fait un logiciel et les inviter à construire quelque chose au lieu de simplement consommer quelque chose qui est livré par la technologie.
Alors ça, c'est aux États-Unis, hein, puisque vous nous faites l'honneur d'être de passage à Paris et donc de pouvoir être ici à cette émission. C'était dans quelle partie des États-Unis? Est-ce que ça a eu du succès aux États-Unis?
Ça a eu du succès partout dans le monde. En fait, c'était ouvert à toute école qui avait accès à l'Internet. En 95, ce n'était pas un très grand nombre. Je pense qu'il y avait, si je me rappelle bien, vers 35 écoles qui avaient accès à l'Internet dans le monde en 95, et on les a écrits, on les a contactés en disant qu'on faisait ce projet et qu'on invitait les enfants de l'école, les élèves de l'école, à contribuer à une histoire qui, de jour en jour, devenait plus lente par les phrases que contribuaient les enfants eux-mêmes. D'accord. Et c'était du jamais vu à ce moment-là.
Une construction collective.
Voilà.
Autour de l'intérêt pour les technologies numériques.
Exactement. Mais ça ressemblait pas à une technologie. D'accord. C'était l'intérêt. Parce que on savait qu'à cette époque, les personnes les plus vues en technologie, c'était les garçons dans leur jeunesse et les hommes plus tard. Et que lorsque les femmes postulaient, par exemple, dans des écoles techniques pour faire l'informatique, on leur disait qu'elles avaient pas assez d'expérience antérieure.
D'accord. Est-ce que vous avez l'impression que cette action que vous avez menée a eu un impact? En d'autres termes, est-ce que la situation a beaucoup changé aujourd'hui?
Malheureusement, la situation n'a pas beaucoup changé aujourd'hui. Au contraire, je trouve qu'on souffre en ce moment d'un retour en arrière où les start-up, les petites boîtes qui deviennent les grandes boîtes, sont lancées en grande majorité par les hommes, et les employés sont en grande majorité des hommes, ce qui pose un problème non seulement pour les femmes informaticiennes, dont il y en a beaucoup évidemment, mais également pour le monde entier, car on sait que la créativité, l'innovation, vient directement de la diversité des personnes qui sont invitées à la crier.
Alors, Justine Cassel, vous avez aussi imaginé un autre programme qui porte un nom que je trouve extraordinaire. Vous avez coordonné des ateliers sur les techniques de survie pour les femmes en milieu universitaire.
Voilà.
Alors, en quoi ça consistait, ces techniques de survie?
Oui, voilà. C'était un petit peu une blague, sauf que ça a eu beaucoup de succès parce qu'il y avait tellement de femmes qui trouvaient que de jour en jour, elles rencontraient des règles dont elle n'était pas consciente, que les hommes autour d'elle avaient l'air de connaître comment avancer.
Ça, c'était à la fin des années 1990 que vous l'avez lancé, je crois, mais ça continue toujours.
Ça continue toujours. En fait, c'est un programme qui a été repris par d'autres. Je l'ai commencé en 93. Je l'ai fait dans toutes les années 90. Et depuis, oui, comme je le dis, d'autres personnes ont repris ça. Moi, la dernière fois que je l'ai fait moi-même, c'était, je pense, en 2010. D'accord. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça.
En effet. Et donc, vous avez eu l'impression que les femmes à l'université découvraient des règles qu'elles ne savaient pas très bien comment gérer ou qui n'étaient pas faites pour elles, c'est ça?
Pas qui n'étaient pas faites pour elles, mais qui n'avaient même pas conscience, c'est-à-dire que si on réfléchit à comment savoir améliorer sa position dans une fac, les études démontrent que les hommes trouvent très facilement quelqu'un pour les aider, pour les pistonner dans le système, et que les femmes, pour les femmes, ce n'est pas la même chose. Et donc les femmes se trouvent sur un terrain inégal, où les hommes avancent et les femmes se demandent comment est-ce qu'ils savent avancer, comment est-ce que ça leur semble tellement facile, tandis que pour moi, j'arrive pas à savoir ce qu'il faut faire. Et donc ce que je voulais faire, c'était simplement de dévoiler le système pour que tout le monde commence sur un terrain égal, que tout le monde connaisse comment il faut avancer et par la suite à chacun de décider comment il ou elle voulait avancer.
Vous voulez dire rendre explicites des règles dont l'implicite jusque-là profitait surtout aux garçons et pas beaucoup aux filles.
Serge Tisserand, c'était exactement ça.
Et alors, est-ce que vous avez remarqué que les hommes avaient plus tendance à privilégier les candidats masculins, mais est-ce que les femmes auraient plus tendance à privilégier les candidates féminines?
Non, au contraire. En fait, ce qu'on trouvait, c'était que c'est bien le cas encore aujourd'hui, qu'en réunion pour décider qui on va embaucher comme prof, j'entends souvent dire quelqu'un mais il nous faut quelqu'un comme nous. Il faut quelqu'un qui rentre bien dans notre contexte, qui comprend notre contexte. Et de façon complètement inconsciente, les gens qu'ils trouvent, les hommes trouvent être exactement comme eux-mêmes, c'est souvent d'autres hommes. Et c'est pas la même chose pour les femmes. En fait, en technologie, et ce n'est pas la même chose dans toutes les disciplines, par exemple la psychologie développementale, qui est une discipline où il y a beaucoup de femmes, ou l'être, par exemple, où il y a beaucoup de femmes, ce n'est pas le cas. Mais en technologie, maths, physique, les disciplines qui sont de façon traditionnelle les disciplines d'hommes, les femmes parfois avait dans le temps l'idée qu'elle devait agir en homme, elle devait ressembler aux hommes autour d'elle, ce qui comprenait choisir les hommes comme prof.
Alors vous avez également lancé un autre programme là autour, et là aussi avec une expression assez étonnante, qui est un peu dynamite, voilà. Vous avez travaillé sur la question de savoir qu'est-ce qui constitue une carrière normale pour les femmes.
Voilà. Et cette question m'est venue parce qu'en parlant avec les femmes d'un certain âge de leur carrière, ça m'intéresse beaucoup, ça m'a beaucoup intéressée de demander autour de moi, aux personnes plus âgées que moi, comment s'est passée leur vie et comment elles ont choisi le chemin qu'elles ont choisi. Et ce que j'avais remarqué de façon anecdotale, c'est que les femmes me disaient toujours « Oh là là, j'avais vraiment pas de but dans ma vie ». C'est simplement déroulé comme ça. Et les hommes me disaient, j'avais l'envie de devenir prof depuis un jeune âge, et donc j'ai fait telle et telle chose. Et je me demandais si c'était plus fréquent même que je ne remarquais autour de moi. Est-ce que généralement, les femmes ressentaient leur carrière d'une façon différente que les hommes? Et c'est ça la question que j'essayais de poser par cette question. Qu'est-ce une carrière normale pour les femmes?
Et donc, vous êtes arrivé à la conclusion que « normal », entre guillemets, c'était hélas qu'elle se laissait un peu ballotter par les événements, c'est ça?
En fait, non. En demandant aux femmes de me décrire leur carrière, et c'est un petit peu tout ce que je demandais, racontez-moi votre carrière, comment vous avez choisi la discipline, comment vous avez eu votre premier poste, comment vous avez écrit votre premier livre, etc. Les femmes parlaient comme si tout leur est tombé sur la tête. Mais en fait, ce que j'ai pris de tout ça, c'est que c'était une perspective.
C'était une manière d'en parler.
Voilà.
D'accord. Une manière de se présenter aux autres, mais pas forcément ce qu'elles avaient vécu intimement.
Exactement. D'accord. Exactement. Et ça m'a beaucoup intéressée, parce que la narration, ça m'a beaucoup intéressée. Et leur perspective comme narrateur de leur propre histoire était très différente de la perspective des hommes en racontant la même chose.
D'accord. Vous voulez dire, Justine Cassel, que la manière dont on se raconte n'est pas seulement liée à ce qu'on vit et ce qu'on éprouve, mais aussi aux modèles sociaux à travers lesquels on est engagé à le raconter.
Voilà, on construit son histoire des événements,
d'accord,
certes, mais également des patrons.
Des contraintes, des patrons, voilà. Des patrons narratifs. Et puis alors, vous avez aussi écrit un livre, alors là, avec aussi un titre un peu renversant, Justine Cassel, de Barbie à Mortal Kombat, genre et jeu informatique. Et là, un livre donc sur ce que veulent les filles avec les jeux sur ordinateur. Est-ce que vous pouvez nous parler de cela?
En fait, tout ce livre est issu d'une réponse que j'ai reçue d'une jeune étudiante en fac à une petite annonce que j'avais postée à la fac. Je cherchais quelqu'un pour travailler avec moi sur les jeux vidéo. Et j'ai reçu, évidemment, beaucoup de réponses. Tous les étudiants de la fac trouvaient ça trop bien de pouvoir travailler et être payés pour jouer aux jeux vidéo. Mais plusieurs filles, il y en a surtout une qui me revient à l'esprit, m'ont répondu en disant « Ne vous inquiétez pas, madame, je ne suis pas une fille normale. J'ai joué aux jeux vidéo dans ma jeunesse et je connais l'informatique. » Et pour moi, ça voulait dire qu'elles s'inforçaient une norme qui les excluait ou de la féminité ou des jeux vidéo. Et je trouvais ça extrêmement triste et je voulais aller plus loin dans cette question.
Alors, je crois que l'une des conclusions auxquelles vous êtes arrivée, c'est que les femmes n'ont pas envie d'être identifiées comme des nerds ou des geeks. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que veulent dire ces deux mots qu'on entend beaucoup, mais que peut-être les auditeurs ne sauraient pas définir précisément, nerd et geek?
Nerd et geek veulent dire à peu près la même chose. C'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'aptitudes sociales. C'est quelqu'un qui passe ses journées et ses nuits devant son ordinateur. Peut-être en conversation avec d'autres, mais par moyen de l'ordinateur et jamais face à face. C'est quelqu'un qui échoue la vie à l'extérieur de sa maison, de sa chambre, et la remplace par la technologie.
Alors écoutez, ça me permet de faire une magnifique transition vers le second aspect de votre travail dont je souhaite que nous parlions aujourd'hui, la manière dont vous avez, donc après une formation de linguiste, travaillé à développer un agent de conversation incarné, donc un humain virtuel. Alors dites-nous un petit peu quelles sont ses caractéristiques, cet agent de conversation incarné.
Alors, l'agent de conversation incarné, c'est une espèce de bande dessinée, si vous voulez, mais avec une tranche d'intelligence artificielle qui pousse cette bande dessinée à auto-animer, pour ainsi dire. Donc, imaginez les Simpsons, par exemple, mais qui, au lieu d'être dessinés par quelqu'un et d'être mis en œuvre par une vraie personne qui dessine chaque instant, imaginez que les Simpsons, chaque caractère, ait une connaissance du monde, une connaissance du langage et une connaissance des comportements non-verbaux, et en fonction des buts que voulait atteindre ce caractère, il s'auto-animait pour atteindre ses buts de conversation et ses buts sociaux.
Donc vous voulez dire que cet agent de conversation incarné, il est incarné sur un écran, puisqu'on prend l'exemple des Simpsons, en passant dans le personnage des Simpsons sur un écran.
Voilà, c'est ce qu'on appelle une image de synthèse.
Ou un robot virtuel.
Alors,
qu'est-ce qui vous a donné l'idée de passer de cet intérêt pour les femmes et les technologies à la construction de cette machine ?
C'est une question qu'on me pose souvent, et si je vous disais que je connaissais la réponse, j'inventerais. En fait, j'avais un poste de prof que j'aimais beaucoup, mais dans trois départements différents, ce qui était assez rare à l'époque, c'est peut-être aussi rare aujourd'hui. J'étais prof de linguistique, de psychologie et de linguistique française. Et c'était trois disciplines qui me plaisaient beaucoup, mais essayer de faire trois à la fois, c'était assez difficile. Et donc, je rêvais de trouver un endroit où je pourrais être moi-même, avoir un être intrinsèquement interdisciplinaire. Ce que j'ai pensé, ce que j'ai fait n'a jamais bien rentré dans une discipline ou une autre. Et pour moi, les disciplines, c'est les accidents historiques. Donc, à cette époque, je travaillais sur les gestes et le langage et la relation entre les deux. Et j'avais du mal à évaluer mon travail. Comment savoir si mes théories sur les gestes et leur rôle dans notre communication étaient justes? Et donc, j'avais imaginé un être virtuel qui serait un petit peu comme un magnétoscope. C'est un mot que vous n'avez peut-être pas entendu depuis très longtemps, mais c'était un mot de ces jours-là.
Oui. Alors, il faut expliquer un peu ce que c'est pour les jeunes qui n'en ont pas entendu parler.
Voilà. Donc, un magnétoscope, c'est une machine dans laquelle on mettait une vidéo.
Oui, une bande magnétique.
Voilà, une bande magnétique sur laquelle était un film ou une bande dessinée. Et ce que j'avais imaginé, c'était deux êtres virtuels. Tous deux, bon, imaginons que dans notre ventre, il y avait un trou la taille d'une bande magnétique, et dans l'une, on mettait la théorie numéro 1, et dans l'autre, on mettait la théorie 2. On les lançait tous deux, ces êtres virtuels, et on regardait lequel semblait le plus naturel. Et par cela, on comprendrait que la théorie A était meilleure que la théorie 2, enfin, A était meilleure que la théorie B, la théorie numéro 1 était meilleure que la théorie numéro 2. C'est une chose que je fais encore. Donc, les êtres virtuels que je crée jusqu'aujourd'hui sont pour moi une façon d'évaluer des théories du comportement humain. C'est une chose qui m'intéresse encore beaucoup, mais c'est devenu aussi une manière d'intervenir dans la vie des gens en leur donnant moyen d'avoir une conversation avec une autre personne par moyen d'un être virtuel, ce qu'on appellerait un avatar, ou avec un être virtuel.
Donc au début, vous êtes parti sur l'idée de mieux comprendre la communication humain-humain, mais finalement, vos travaux vous ont amené à travailler maintenant sur la communication humain-machine et machine-humain.
Exactement, Serge Tisserand, exactement.
Et donc cette machine que vous évoquez, c'est une machine qui a des gestes, qui a une voix, qui a des intonations. Alors évidemment, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ces machines vont remplacer toutes nos interfaces visuelles habituelles, toutes les applis qu'on trouve sur nos téléphones mobiles, Justine Castel?
C'est en fait notre choix. On dit souvent que les informaticiens veulent remplacer notre monde actuel avec des machines. Mais c'est pas les informaticiens qui ont demandé ça. Les informaticiens répondent à des désirs de l'économie, les désirs des gens qui y habitent. Donc si nous demandons une vie sans personne, sans vie sociale, c'est que nous allons trouver. Mais pour moi-même, je pousse très fort là-dessus et je ne crée que des machines qui collaborent avec des êtres humains et donc qui ne peuvent pas s'en passer de l'humanité. C'est pour moi une croyance très forte.
Alors justement, il y a un mot qu'on entend beaucoup en ce moment dans la relation entre deux humains, mais aussi entre un humain et une machine, c'est le mot d'empathie. Et vous savez qu'il y a des informaticiens qui ont imaginé de créer ce qu'ils appellent l'empathie artificielle, la capacité d'une machine de percevoir les émotions humaines, enfin percevoir entre guillemets, d'en avoir une représentation avec des bases de données, puis pouvoir répondre à un humain en imitant éventuellement l'intonation joyeuse ou une intonation triste. Vous êtes engagé là-dedans ou quel regard portez-vous sur ces travaux ?
En fait, il y a des aspects de ce travail sur l'empathie artificielle qui m'intéressent beaucoup et il y a des aspects de cela que j'essaie d'échapper.
Très bien. Alors, commençons par ceux que vous voulez. On va voir les deux l'un après l'autre.
Voilà. Pour moi, il n'y a pas d'empathie artificielle dans le sens qu'un être artificiel va ressentir l'empathie. Un être virtuel ne va, selon moi, jamais ressentir quoi que ce soit. Mais en fait, chez moi, dans mon travail, ce n'est pas la machine qui m'intéresse le plus, c'est ce que ça évoque chez les personnes. Et donc, si un être virtuel peut évoquer des vrais sentiments chez la personne, peut-être pour rappeler à cette personne l'importance qu'ont les émotions dans la vie, c'est une bonne chose.
Il nous faudrait donc, vous imaginez qu'il y a une époque, Justine Cassel, où il nous faudrait des machines pour nous rappeler qu'il est bon d'éprouver des émotions dans la vie ?
Alors, je peux vous dire qu'il y a des cas où c'est nécessaire. Par exemple, j'ai fait pas mal de travail avec des enfants autistes, des adolescents autistes, qui ont du mal à reconnaître les émotions sur les visages, sur le corps des gens, et à exprimer leurs émotions de la même façon que le font ce qu'on appelle les gens typiques, et donc les neurotypiques.
Les neurotypiques.
Oui. Et donc pour ces enfants-là, pour ces personnes-là, ça peut être très intéressant d'avoir une machine qui les soutient dans leur capacité de nouer une relation avec d'autres personnes. Parce que dans notre société, nous dépendons beaucoup du social pour créer des objets ensemble, pour apprendre, pour vivre en communauté. Donc si on n'a pas ces capacités, en fait, on perd beaucoup dans la vie de tous les jours. Mais pour moi, ce qui est beaucoup plus important que l'empathie, c'est ce que j'appellerais le rapport ou l'entente. Il y a beaucoup d'informaticiens qui visent l'autonomie des agents. Et un agent qui est autonome peut avoir de l'empathie artificielle. Parce que l'empathie est quelque chose qui est ressenti par un seul être pour un autre et non pas avec un autre. Et l'autonomie ne m'intéresse pas parce que j'essaie de modéliser le comportement humain. Et en tant qu'humain, nous ne sommes pas autonomes. Au contraire, nous sommes très interdépendants. Et donc, je travaille dans mes recherches sur plutôt des états psychologiques de l'interdépendance comme l'entente. Si j'ai de l'entente avec vous, vous avez de l'entente avec moi. À quoi ça ressemble et comment l'évoquer chez les personnes. C'est ça le genre de question qui m'intéresse.
Il n'empêche que, comme vous disiez tout à l'heure, l'humain éprouve l'émotion, mais la machine dotée d'empathie dite artificielle ne l'éprouve pas.
Voilà, exactement. Donc ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on peut provoquer chez la personne. Est-ce qu'on peut provoquer, par exemple, en anglais on appelle ça « disclosure », c'est-à-dire le fait de parler de soi-même à l'autre. Ce qui a un effet important sur une personne, parce que, comme l'ont dit beaucoup de psychologues, notre besoin le plus cher, notre besoin le plus basique, c'est le besoin d'être entendu par d'autres personnes. C'est d'avoir l'impression d'être vu et connu.
Et vous pensez que des robots conversationnels pourraient créer cette illusion de manière assez forte chez un humain pour qu'un humain trouve le chemin du bonheur en parlant avec une telle machine autant qu'avec un autre humain qui l'écoute ?
pas le bonheur lui-même, mais peut-être le chemin vers le bonheur.
It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I could never explain what I hear when you don't say a thing. The smile.
Christine Cassel, alors je vous entends fredonner sur cette chanson d'Alison Krauss, dont le titre en français est « Quand tu ne dis rien ». Donc c'est une chanson que vous connaissez par cœur, que vous aimez beaucoup.
Je connais par cœur et j'aime beaucoup. C'est une chanson dont les paroles parlent exactement de ce que j'étudie, c'est-à-dire le comportement verbal et ce que ça révèle de nos pensées, de nos sentiments. Pas de façon mauvaise, c'est-à-dire que ça révèle des choses qu'on ne veut pas révéler. Freud a dit, par exemple, on n'a pas besoin de parler parce que nos doigts parlent pour nous. Mais là, c'est des choses que nous ressentons profondément. Alison Krauss chante « Vos yeux me disent combien vous avez besoin de moi ». Et c'est ce genre de choses qui peut être révélé par les comportements non-verbaux. C'est pour ça que mes êtres virtuels ont la capacité de reconnaître les gestes, les mouvements faciaux et également d'en produire sur leur petit corps d'images animées.
France Culture, des machines et des hommes, est toujours avec vous, Justine Cassel, qui vous nous parlez si bien des robots conversationnels, à la fois avec passion et réserve. Et alors vous venez de nous dire pourquoi vous aviez choisi ce morceau, en effet, de Alison Krauss. Et j'ai envie maintenant de rebondir sur ce que vous évoquez de l'importance de ces agents conversationnels pour vous. Est-ce que vous pensez que c'est important qu'ils aient chacun une personnalité différente, ou est-ce que vous pensez que finalement il vaudrait mieux qu'ils soient renvoyés à leur qualité de machine et que lorsque nous en choisissons un ou un autre de la même marque, nous interagissions pareil avec eux, ou bien au contraire que l'un ou l'autre de la même marque soit programmé pour avoir une fausse personnalité qui nous fasse illusion?
Je vais vous parler de ce qu'on trouve sur le marché et ce qu'on trouve dans mes recherches, qui sont deux choses assez différentes l'une de l'autre. Sur le marché, on trouve des chatbots, ce qu'on appelle des chatbots, des agents conversationnels, qui n'ont pas de corps, dans presque tous les cas, mais qui ont une voix qui est extrêmement soigneusement imaginée. Par exemple, Siri, pour prendre un exemple parmi d'autres, a une voix qui ressemble à la voix d'une adolescente, une femme dans la vingtaine. Elle a ce qu'on appelle « creaky voice », c'est une qualité de voix un petit peu comme ça. C'est un petit peu mignon, un petit peu sentimental, et ça pourrait évoquer la sensation de quelqu'un qu'on pourrait aimer. Et je ne pense pas que ça soit par hasard.
Quelqu'un qui pourrait se laisser séduire par nous.
Par exemple, et je sais que lorsque je demande à Siri de s'en aller sur mon ordinateur, sur mon Macintosh, elle dit « Mais est-ce que c'est quelque chose que j'ai dit ?» Donc, en fait, elle imite là la réaction d'une jeune femme qui se sent froissée ou qui se sent...
Et qui prend la responsabilité d'avoir dit quelque chose qu'il ne fallait pas. La culpabilité n'est pas loin.
Exactement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Apple a choisi une voix de femme aux États-Unis, mais une voix d'homme en Angleterre pour Siri. Et il faut se demander pourquoi ça s'est fait comme ça. Parce que chaque choix que fait une société sur une voix ou un regard ou une image est fait pour évoquer une stéréotype. Bon, il faut venir un petit peu en arrière. Les stéréotypes ne sont pas toujours de mauvaises choses. On n'arrive pas à penser, en fait, tous les jours sans des stéréotypes. Nous ne pouvons jamais absorber toute l'information qui vient vers nous. Et donc, les stéréotypes nous permettent non pas d'absorber quelque chose de neuf, mais de faire de la sortir un patron que nous connaissons déjà. Donc, lorsque nous entendons une voix féminine, nous nous disons peut-être, ah, c'est une voix féminine, c'est quelqu'un qui va vouloir m'aider, me materner un petit peu.
Alors ça dépend des cultures, parce que j'ai lu Exactement. Que les utilisateurs allemands de GPS, d'après une enquête, seraient gênés qu'une voix féminine leur indique quoi faire.
Par exemple, donc c'est une autre partie de la même stéréotype. Elle, oui. Peut-être elle nous materne, mais est-ce qu'elle est aussi intelligente? Et ce n'est pas une chose que je crois moi. Et ce n'est pas une chose que je suggérerais à des sociétés, des industries, parce que ça peut avoir un effet sur les êtres qui l'utilisent. Moi, je trouve que c'est notre responsabilité également de pousser contre les stéréotypes nocifs.
Mais il faut quand même bien choisir entre une voix masculine et une voix féminine, Justine Cassel.
Pas du tout.
Non, on peut en trouver une qui soit entre les deux.
Dans mon travail, dans mes recherches, nous nous efforçons à créer un être virtuel, une image sur un écran qui est ambigu entre homme et femme, avec une voix qui est tout aussi ambigu. Et ce que nous trouvons, c'est que les hommes pensent que c'est un homme et les femmes pensent que c'est une femme. Nous passons parfois jusqu'à 6 mois à trouver une image qui ait cette qualité d'ambiguïté pour évoquer de différentes choses, de différentes personnes. La même chose avec l'ethnicité. Nous voulons pas provoquer par erreur des stéréotypes nocifs d'ethnicité et donc nous créons des êtres qui sont dessinés avec beaucoup de mal, avec beaucoup de temps pour être ambigus.
Mais vous ne pensez pas qu'un jour ou un autre, Justine Cassel, les utilisateurs vont avoir envie de pousser un petit peu du côté féminin ou du côté masculin, ou modifier un peu la voix, demander la possibilité d'être actif et pas seulement d'être obligé d'utiliser l'avatar que vous leur fournissez avec l'apparence et la voix que vous lui donnez?
On n'a jamais vu un de nos utilisateurs nous demander de changer l'apparence de l'avatar ou l'être virtuel. Il est vrai que parfois les enfants avec lesquels on travaille nous demandent « Est-ce que c'est un garçon ou une fille ?» Et nous disons « Qu'est-ce que tu penses, toi ? C'est à toi de voir ça. » Et elle ou il continue très satisfait de cette réponse.
Alors, une autre question qui se pose souvent par rapport à ces robots conversationnels, virtuels ou ayant un corps, c'est la question de la politesse. Est-ce que il est important d'éduquer les enfants ou de demander aux adultes d'être polis avec ces machines, ou au contraire, est-ce que finalement chacun a le droit de les gérer comme des machines s'il en a envie? Qu'est-ce que vous avez constaté? Quel serait plutôt ce que vous pouvez conseiller?
Je vais répondre à cette question par une autre question. Est-ce que on doit s'efforcer ses enfants à être polis avec un chien ou un chat ou un oiseau? Sinon, on n'a pas besoin de les forcer à être polis avec une machine. Parce qu'à la différence de ce que craignent les parents, les enfants ne confondent jamais les êtres virtuels avec les êtres réel.
Justine Cassel voulait dire qu'il faut laisser beaucoup d'initiatives, beaucoup de liberté aux enfants dans ce domaine-là.
Il faut leur donner beaucoup plus de capacités, il faut attribuer aux enfants beaucoup plus de finesse que nous attribuons parfois à des enfants. Donc, on me pose cette question tellement souvent que j'ai pris l'habitude de demander aux enfants qui travaillent avec nos êtres virtuels si c'est une vraie personne. Et à chaque fois, on reçoit exactement la même réponse. Les enfants roulent les yeux et ils disent... Oh, Non. Bien sûr que non. Comme si, ah, vraiment, les adultes, il faut tout leur expliquer. Donc, les enfants, ils sont jeunes, ils ne connaissent pas le monde encore, et ils le savent. Et donc, pour eux, ils n'ont pas de difficultés à faire une place pour un être virtuel, tout comme ils font de la place pour un compte en banque, quelque chose qu'ils ne connaissaient pas auparavant. Il doit y avoir plein de choses dans le monde qu'ils ne connaissent pas. Et ils laissent, ils peuvent mettre de côté la réalité pendant une narration. C'est tout à fait comme... par exemple, Melville, qui en écrivant Moby Dick, commence le roman par « Je m'appelle Ishmael ». Est-ce que c'est un mensonge? Parce que Melville s'est jamais appelé Ishmael. Non, c'est une narration. Et par le même titre, les enfants savent que leurs interactions avec une machine ne sont pas des interactions réelles, ni des mensonges, mais des espèces d'histoire ou de narration.
Mais l'enfant grandit, et puis il devient un pré-ado, et puis il découvre beaucoup de manières assez brutales de parler ou d'interagir. En général, il fait attention avec les animaux. Est-ce qu'il fait attention aussi avec ses robots?
C'est une bonne question, mais on a assez d'évidence. Ces êtres virtuels que moi je crée depuis 2000, il y a maintenant assez de données pour savoir que jamais enfant a grandi en pensant que ces êtres virtuels sont des êtres réels.
Donc vous voulez dire que finalement le genre d'attitude qu'adopte un enfant, un adolescent vis-à-vis d'un robot, qu'il lui parle poliment ou impoliment, tout ça n'a pas trop d'importance. L'important c'est que pour lui, ça soit toujours une machine et que cette idée-là, il ne la perde pas.
L'enfant ne perde pas cet aspect-là, mais ça n'empêche pas l'enfant de tirer de bonnes choses de la machine. Et nous avons démontré, par exemple, qu'un enfant qui travaille avec un enfant virtuel, qui parle le même langage, qui a la même façon de parler qu'un vrai enfant, est plus doué comme partenaire dans les études qu'un enfant virtuel qui parle avec la voix d'un enseignant.
Que l'enfant apprend plus d'un robot qui parle avec une voix enfantine que d'un robot qui parle avec la voix d'un adulte enseignant.
Ça pourrait être le cas. Dans notre cas, ce que nous avons imaginé, ce que nous avons étudié, c'est si un enfant virtuel qui parle le dialecte, le langage d'une banlieue particulière, par exemple, le verlan, par exemple, est meilleur tuteur qu'un enfant qui parle comme l'instituteur, avec une voix très sérieuse et très formelle.
Alors, est-ce que vous pensez, Justine Cassel, que plus nous allons développer des relations avec ces machines, plus on peut imaginer que nos relations avec nos semblables vont évoluer elles aussi? Comment vous voyez les choses? Vous allez me dire, d'un côté et de l'autre,
oui,
il y a un problème,
oui,
mais il y a des aspects positifs. Mais alors, j'aimerais vous en entendre parler plus précisément.
Voilà. Mais c'est une question que je me pose, évidemment, très souvent. Je veux faire du bien dans le monde. C'est mon but professionnel, de créer du bien et non pas du mauvais, évidemment. L'être virtuel est un... Et c'est un média, c'est un médium par lequel passe les messages. Mais c'est les messages qui comptent plus que le médium lui-même. C'est comme ce prêtre qui a dit dans le XIVe siècle qu'on perdait la religion parce que les jeunes prêtres n'avaient plus besoin d'écrire à la main leurs manuscrits, mais ça pouvait être imprimé. Et qu'en imprimant, un prêtre n'aurait pas le besoin de ressentir le ferveur religieux ou les sentiments religieux. Ben de nos jours, on trouve ça risible. De la même façon, les plaintes des parents vis-à-vis la radio dans les années 40. J'ai tellement de citations de parents qui disent « Mon enfant devient dangereux et violent. Je sais, c'est à cause de cette machine, de ces machines. Et les machines, c'est les radios. De nos jours, on trouverait ça risible. Donc, chaque technologie qui passe, par définition, je pense, d'abord, on lui voit tous les bénéfices et par la suite, tous les malheurs. Mais la vérité, comme toujours, est entre les deux.
Alors, il y a un domaine que vous avez évoqué tout à l'heure et qui est un domaine sur lequel vous travaillez beaucoup, sur lequel vous faites référence, l'utilisation d'outils numériques et précisément, justement, de robots conversationnels avec les enfants autistes. On n'a pas beaucoup de temps, mais est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
Mon travail avec les enfants autistes, Serge Tisserand, vise à voir si ces enfants qui ont ce qu'on pourrait appeler des capacités sociales atypiques, et je ne veux pas dire que ces capacités sont forcément des déficits, parce qu'ils ont des façons à parler à eux, mais parce qu'ils vivent dans la même société que d'autres enfants qu'on appelle typiques et qui... collaborent avec les enfants autistes dans des écoles. Les enfants autistes ont besoin de connaître les modes des modes de communication qu'utilisent les enfants autour d'eux. Mmh. Et je m'étais demandé si la technologie pourrait servir de échafaudage en quelque sens. Mmh. Oui, d'échafaudage à une manière de communiquer qui ressemblait les enfants autour d'eux.
Merci beaucoup Justine Cassel et j'ai encore envie de vous demander par rapport aux recherches actuelles vous aviez la possibilité d'imposer une recommandation éthique ou au moins de la proposer, laquelle vous mettriez en avant? Parce que la question éthique aujourd'hui est au centre de tous ces travaux en robotique, en intelligence artificielle. Qu'est-ce qui vous paraît très à vous urgent de privilégier?
Moi je trouve que au lieu de privilégier la régulation, il faut privilégier l'éducation, qu'il faut apprendre à tout enfant ce que c'est que la technologie et comment la manier pour qu'aucun enfant devienne un adulte qui ait peur de cette chose, mais que toute personne sache comment la manier à ses propres fins pour être non seulement consommateur, mais également créateur.
Merci beaucoup Justine Cassel d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et rappelons-nous, il n'y a pas d'homme-machine, il n'y a pas de machine-homme, il n'y a que des hommes et des machines qui ne cessent évidemment jamais d'interagir et de s'influencer.
Merci Serge Tisserand.
Matière à penser, des machines et des hommes, Justine Cassel, Pascal Bénard, Céline Leclerc, Anne-Pascale Desvignes et Serge Tisseron.